Bonjour tout le monde. On est content que vous êtes avec nous ce matin. Quelque part, hein? C'est un peu difficile vraiment d'être ensemble. Et justement, le verset qu'on va voir tout à l'heure parle de notre assemblée. Le verset vers la fin du message aussi, c'est le même et dans son contexte. Et il parle de l'importance d'être ensemble. Nous sommes ensemble. Online. Voilà, donc encore bonjour à tout le monde. Nous allons aborder le message. Comme vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai répondu à la question quand. Quand est-ce que Jésus va revenir? Et globalement, on a dit, c'est imminent et ce sera le bon moment. Au bon moment. Aujourd'hui, nous abordons la question de pourquoi. Pourquoi Jésus va-t-il revenir? Jésus-Christ, la parole faite chair, donc le Créateur et l'héritier de l'univers, il va revenir et c'est pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, pour accomplir toutes ses promesses envers Abraham, Israël, les saints dans l'Ancien Testament. Puis, il va venir pour accomplir ses promesses qu'il a données à nous, les chrétiens. Et troisième, il va revenir pour mener à sa fin l'histoire du monde. Bon, c'est un peu large comme thème, c'est un sujet, mais c'est globalement ces trois choses-là. Mais pour commencer, je voudrais apporter quelques précisions sur la mort. Et sur l'endroit où va l'esprit quand il quitte le corps. La personne qui a reçu la purification de ses péchés par la foi en Jésus-Christ n'ira jamais en jugement car Jésus a déjà été jugé et condamné à sa place. Donc, à la mort d'un croyant, l'esprit de cette personne rejoint le Seigneur Jésus au ciel. Je vais donner trois versets. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, fin du verset. Jésus nous délivre de la colère à venir. Il nous délivre de cette colère. Nous n'aurons pas à subir cette colère. Romains, chapitre 8, et verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Maintenant, il veut dire, il y a donc maintenant que nous avons cru en Jésus-Christ, eh bien maintenant, il n'y a aucune condamnation. Et puis dans 2 Corinthiens chapitre 5, et je prends quelques petits morceaux de verset 5 et verset 8, Dieu nous a donné les arts de l'Esprit, donc le Saint-Esprit qui est en nous, et nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ce qui veut dire que le moment qu'on parte, ici-bas, on est accompagné par le Consolateur, le Saint-Esprit, mais quand on va quitter le corps, on ira auprès de Jésus, tout de suite. À la mort de toute autre personne, c'est-à-dire à la mort de tous ceux qui n'ont pas cru à l'Évangile, leur esprit, qui est déjà séparé de Dieu, restera séparé de Dieu et va tout de suite dans le lieu pour les esprits, enfin pour les morts, pour les esprits des morts, qui est appelé Sheol. Ceci est un endroit spirituel, où les esprits des gens condamnés attendent la sentence de leur condamnation éternelle devant le grand trône blanc à la fin du temps. Ce n'est pas un purgatoire, c'est un endroit de détention, un peu comme une prison, pour les esprits qui seront condamnés. Or, il y a des chrétiens aujourd'hui qui pensent à tort que les esprits en Sheol sont endormis, un peu comme s'ils étaient dans un coma spirituel, en attendant le jugement éternel. Mais, selon les paroles de Jésus dans Luc chapitre 16, et j'insiste que Luc chapitre 16 ne se présente pas comme une parabole, mais comme un récit, eh bien, non seulement ces pauvres gens en Sheol, le parti pour ceux qui sont condamnés, eh bien, sont conscients, mais ils sont dans la souffrance morale et physique et dans le remords. Non, ils ne sont ni inconscients, ni endormis. Ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jésus a utilisé un euphémisme pour parler de la mort des croyants en disant qu'ils étaient endormis. Un euphémisme adoucit une expression trop déplaisante. Donc, dormir est un euphémisme pour mourir. Aujourd'hui, nous utilisons l'euphémisme qu'une personne est disparue au lieu de dire que la personne est morte. C'est un euphémisme. Voilà l'exemple dans Jean, chapitre 11, à propos de Lazare, à partir du verset 11. Jean 11, 11. Donc, Jésus parlait avec ses disciples. On avait dit que Lazare était bien malade et Jésus savait qu'il était mort. Mais ils vont partir voir Lazare et ses deux sœurs. Et donc, après la discussion, donc verset 11, après ces paroles, Jésus dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus, verset 13, avait parlé de sa mort, mais les disciples crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il n'y a rien dans ces versets qui suggère que l'âme dort. Dans les versets que je vous donne ici et les versets en parlant de Luc chapitre 16, il n'y a rien qui suggère que l'âme dort. Le corps ne dort pas, le corps est mort. L'âme reste active car elle est partie en voyage. Quand Jésus est mort, son esprit est allé prêcher aux esprits en Sheol. Ni Jésus, ni les autres esprits ne dormaient. Jésus a prêché, les esprits ont écouté. Tous étaient actifs. Bon, je ne connais pas le fond, mais peut-être c'est pour éviter l'idée que les gens souffrent, que l'on prétende que l'âme dorment, tandis que la Bible affirme que les âmes en Sheol sont conscientes. Je ne sais pas le pourquoi, mais ce n'est pas biblique. Bon, maintenant, on va aborder la question de c'est quoi la résurrection? Que veut dire le mot résurrection? La résurrection, c'est la réunification du corps avec l'âme et l'esprit. Le mot résurrection signifie revenir physiquement à la vie. C'est le mot en grec, c'est le mot se mettre debout. La Bible dit que chacun reviendra à la vie. Chacun se mettra debout pour suivre le destin éternel qu'il aura choisi pendant sa vie. Attention, il n'y aura pas de deuxième chance, hein. Il n'y aura pas de purgatoire. Il n'y aura pas de réincarnation. Chacun meurt une seule fois, puis vient le jugement. L'unique purgatoire, l'unique lieu pour purification, pour purger vos péchés, est la croix de Calvaire. C'est là où Jésus est mort pour les péchés du monde entier, une seule fois pour chaque personne. Or, la Bible dit clairement qu'il y a deux résurrections. Il y a une qui concerne les justes et une autre qui concerne les injustes. Daniel, Jésus et Paul ont tous enseigné clairement qu'il y aura une résurrection des justes et une autre résurrection des injustes. Cependant, Dieu ne ressuscitera pas les justes et les condamnés en même temps. Ces deux résurrections sont séparées de 1000 ans. La résurrection des chrétiens de notre époque aura lieu avant la tribulation et la résurrection des condamnés aura lieu après le millénium, après le royaume du Christ, 1000 ans plus tard. Parlons d'abord de la résurrection des condamnés, appelée la seconde résurrection. Donc on parle en premier de la seconde résurrection. Les injustes seront tous ensemble et en même temps ramenés à la vie. Oh, malgré eux. Ils seront ramenés à la vie pour le jugement de condamnation à la fin du temps et au début de l'état éternel. Quelle mauvaise surprise ce sera pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus que de revenir à la vie pour passer en jugement devant le Dieu créateur. Il faut savoir, vous n'avez rien à faire pour y aller, car chacun est destiné à l'enfer à cause de ses péchés. Dans Jean chapitre 3, verset 36, la fin du verset dit, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc ces gens n'échapperont pas à la colère de Dieu. Dieu appelle la seconde résurrection, la résurrection à la condamnation. Voici ce que Jésus a révélé à Jean dans l'Apocalypse, chapitre 20 et versets 11 à 15. Si vous voulez chercher ça, Apocalypse, chapitre 20 et versets 11 à 15. Apocalypse 20 et verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessous. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grandes et les petites, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les mortes furent jugées selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts, ça c'est Sheol, rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, j'ai fait cette petite illustration. Je ne sais pas si ça aide ou pas. Il y a les livres et il y a le livre. Il y a le nom, les nombreux livres des œuvres que nous avons, qu'une personne aurait fait. Donc, ça veut dire tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a, il aurait dû faire, il n'a pas fait, et ce qu'il voulait dire, il aurait dû dire, mais il n'a pas dit. Toute sa vie est enregistrée dans ce livre des œuvres. Et puis, il y a le livre, un livre unique. Donc, on parle de ces deux livres-là. Et ce jugement du grand trône blanc est entièrement dédié à la condamnation de ceux qui n'ont qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Donc, disons, je fais comme ça comme illustration, mais quand une personne a le jugement là, devant Dieu, il va dire, regardez dans le livre pour voir si son nom est dans le livre de vie. Non, son nom n'est pas là. Ah, ouvre les livres pour savoir quelles étaient ses œuvres afin qu'on puisse juger et condamner, passer sentence sur cette personne qui a refusé de croire à mon fils. C'est pas joyeux, cette situation. Pour éviter ce jugement, pour être délivré de cette colère de Dieu qui est à venir, eh bien, pour être inscrit dans le livre de vie, il faut croire en Jésus-Christ. Au moment même qu'une personne croit en Jésus-Christ, les péchés qui avaient été enregistrés dans ces volumes sont effacés, donc ils n'existent plus. Et la personne, le croyant, est inscrit dans le livre de vie. Pour Dieu, le croyant est devenu une nouvelle création. Le nom du croyant ne se trouve plus jamais inscrit dans le livre des œuvres. Il ne sera pas devant le grand trône blanc parce qu'il a accepté que Jésus a subi la condamnation à sa place sur la croix de Golgotha. Par contre, ceux qui seront toujours inscrits dans les livres des œuvres se trouveront devant le grand trône blanc. Ce sont ceux qui ont gardé leur péché, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ pour avoir le péché effacé et donc seront jugés pour toute leur mauvaise œuvre. La résurrection pour la condamnation sera une résurrection de honte et de peine éternelle. Voilà, donc, une des raisons que Jésus va revenir est pour juger et condamner tous ceux qui l'ont rejeté. Mais il faut savoir que Dieu ne veut que personne aille en jugement. Dieu veut que chacun, même choisisse maintenant, en ce moment, de croire en Jésus-Christ pour ne pas aller en jugement, mais pour aller dans la présence de Dieu. Au moment même que vous accepterez Jésus-Christ comme votre sauveur, Dieu écrira votre nom dans cette livre, dans ce livre de vie. Parlons maintenant de la première résurrection. Donc, la seconde résurrection était une résurrection à condamnation. Eh bien, la première résurrection est une résurrection à la vie. Dieu a fait l'homme et la femme à son image afin qu'ils vivent en sa présence, en communion avec lui. Mais le péché a rompu cette relation. La mort et la résurrection de Jésus rétablissent cette relation pour ceux qui croient. Et c'est à la résurrection du corps, c'est la résurrection du corps qui va compléter cette restauration. Nous lisons dans Jean chapitre 11, verset 23, quand Jésus parlait à Marthe, Jésus a dit, ton frère ressuscitera. Marthe a répondu, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra quand même il serait mort. Jésus fait ici et ailleurs la promesse de ressusciter et d'amener au ciel tous les croyants en Jésus-Christ. Il a dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc la première résurrection, c'est les croyants est bien, enfin, bien com plus complexe que la seconde résurrection, celle des non-croyants. La première résurrection est complexe, et là, je vais expliquer. La première résurrection est divisée en quatre actes. Et ces quatre actes forment un tout qui est appelé la résurrection à la vie éternelle. Donc, j'ai un petit panneau pour vous l'expliquer. J'espère que vous pouvez le lire. Donc, la première résurrection est la résurrection à la vie. Okay? Donc, ça, c'est la vie, le royaume et l'état éternel. Le premier acte, c'est la résurrection de Jésus même. Et puis, tout de suite après, c'était la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Bon, nous, on habite dans ces 2000 ans plus là. Et à la fin de notre époque, il y a la résurrection des chrétiens et l'enlèvement de ceux qui sont encore vivants. Et 7 ans plus tard, il y a la résurrection des martyrs de la tribulation. Ensemble, nous serons tous dans le royaume de Christ et par la suite dans l'état éternel auprès de Jésus, dans le paradis céleste. Le premier acte, Jésus, l'homme sans péché, est mort pour nos péchés. Il est ressuscité en premier. Et parce que Jésus est ressuscité, chaque personne peut être certain de sa propre résurrection. Ceci devrait faire peur aux non-croyants. Parce que les non-croyants vont être ressuscités contre le gré. Mais pour nous qui croyons, c'est rassurant de savoir que nous serons ressuscités pour aller au paradis. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 24, je vais arrêter à verset 23. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23, première partie de verset 23, nous lisons. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, c'est-à-dire dans le bon ordre. Premièrement, Jésus, puis les saints de l'Ancien Testament, les croyants en Jésus-Christ, les martyrs de l'Ancien Testament, et à la fin, les condamnés pour aller devant le grand trône blanc. Le second acte, c'est les saints de l'Ancien Testament. La preuve que Dieu va ressusciter tout le monde se trouve dans le fait que peu après la résurrection de Jésus, de nombreux, sinon tous les saints, donc les croyants de l'Ancien Testament, sont sortis de leur tombe ressuscités. Dans Matthieu chapitre 27, versets 51 à 53, nous lisons ceci. Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira d'en haut, en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, Jérusalem, et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, il faut savoir que parfois, dans le Nouveau Testament, le mot « plusieurs » et le mot « beaucoup », donc c'est deux qui sont traductions du mot grec « polus », eh bien, il signifie tous. Donc, des fois, je ne dis pas toujours, mais des fois, plusieurs et beaucoup signifient tous. Ainsi, le sens de cette phrase, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, pourrait dire que tous les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités et que seulement certains se sont manifestés à Jérusalem. Le troisième acte, la résurrection de ceux de notre époque, notre dispensation, qui croient en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 encore, ce chapitre explique en détail la résurrection des croyants en Jésus-Christ à la fin de notre aïeune, à la fin de notre époque. Cette résurrection, donc la résurrection des chrétiens, qui aura lieu juste avant la tribulation, se manifestera en deux étapes bien distinctes, mais séparées de quelques nanosecondes. La résurrection des morts en Christ, la transformation des croyantes qui sont encore vivants. Donc on appelle ça l'enlèvement. Les morts ressuscitent et les croyants vivants sont enlevés. Ainsi, dans un premier temps, juste nanoseconde avant l'autre, mais dans un premier temps, les croyants en Jésus-Christ qui sont déjà morts ressusciteront, leur corps sera réunifié avec leur âme et leur esprit. Et dans un deuxième temps, les croyants qui sont encore vivants seront transformés sans passer par la mort. Ces corps ressuscités seront transformés pour pouvoir fonctionner dans l'état céleste dans le paradis éternel. Oui, nous parlons de miracles faits par un grand créateur. Mais Dieu a fait bien d'autres miracles. Comme il a pris Enoch, il a pris Élie, tous les deux qui sont allés au ciel sans que ceux-ci ne meurent. C'est la même idée d'être enlevé. Et bien sûr, il y a la résurrection de Jésus comme prémisse. Ils sont tous vivants aujourd'hui au ciel. Ce troisième acte, comme je l'ai déjà dit, a lieu dans deux étapes distinctes, à peine différencié dans le temps. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 17. Et après, nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 51 à 53. Okay? Donc, on est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera, donc dans le contexte, il veut dire ramènera au ciel, ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Donc, l'avènement du Seigneur, ici, il fait référence à l'enlèvement dans les airs, verset 17, qui va venir plus tard, avant la tribulation. OK, donc je reprends. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne t'avancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours, et je souligne là, toujours avec le Seigneur. Et donc, il y a un petit éclaircissement ou clarification sur ce thème dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc, les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Ceci est la bienheureuse espérance. Nous espérons faire partie des derniers croyants et donc de ne pas passer par la mort, mais d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Donc vous avez vu dans le verset 17 le mot enlevé. Le texte dit que les croyants encore vivants partiront vers le Seigneur pour le rejoindre sur les nuées dans les airs. Ils vont à la rencontre du Seigneur. Et c'est pour cela qu'on appelle cet moment de l'histoire, on l'appelle l'enlèvement. Voilà une autre raison que Jésus va revenir. C'est pour ressusciter et recevoir les chrétiens pour les faire entrer dans le paradis céleste auprès de lui. Malheureusement, certains croyants de nos jours ont abandonné cette bienheureuse espérance. Pourtant, l'enlèvement est clairement enseigné comme le prochain événement prophétique. Aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé des signes qui nous rappellent l'approche de la fin de notre éon, de notre époque. Pourtant, nous, et j'espère bien avoir bien fait le point la semaine dernière, nous ne cherchons pas des signes existent, mais nous ne cherchons pas des signes, nous attendons le Seigneur Jésus lui-même. Nous attendons d'être enlevés ensemble sur les nuées pendant que nous faisons nos diverses activités journalières. Quand Jésus nous reçoit dans l'air, c'est pour être désormais et désormais avec lui et pour toujours. C'est aussi en ce moment qu'aura lieu au paradis céleste le tribunal de Christ, c'est-à-dire la vie de chaque croyant en Jésus-Christ sera évaluée afin de mettre en valeur nos œuvres en Christ. Ce n'est pas un jugement de condamnation, c'est une évaluation pour les récompenses. L'enlèvement et résurrection des chrétiens est la fin de notre époque de l'Église. C'est pour cela que c'est la dernière trompette pour l'Église. Désormais, la parenthèse entre le 60. Donc, il y avait les 69 semaines, et puis il y a une parenthèse qui commence jusqu'à la fin, donc le 70e semaine et après, et donc la parenthèse est fermée. Au moment de l'enlèvement, la parenthèse est fermée, et donc le 70e semaine de Daniel va pouvoir s'accomplir. Puisque nous serons déjà et toujours avec le Seigneur, nous allons accompagner Jésus quand il reviendra sur la terre à la fin de la tribulation et quand il établira par la suite son royaume. Le quatrième acte, donc le quatrième acte de la première résurrection, le quatrième acte de résurrection à la vie, c'est la résurrection des martyrs de la grande tribulation. Suite à notre enlèvement, Ensuite, au troisième acte de la première résurrection, il y aura sept horribles années de tribulation sur toute la terre. Le moment que les derniers croyants en Jésus-Christ sont enlevés est aussi le moment que celui qui habite les croyants, donc le Saint-Esprit, et bien celui qui retient la croissance du mal dans ce monde, eh bien, il terminera ses contestations avec le monde. C'est discuté dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 8. Donc, l'enlèvement est le déclenchement de la grande tribulation. Puisque nous allons parler de cet sujet, donc la grande tribulation, la semaine prochaine, il faut seulement noter aujourd'hui, pour le message, qu'il y aura beaucoup de martyrs pendant les 7 années de la tribulation. Dans sa vision, dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 14, Jean a vu une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue, je saute un peu, ceux qui viennent de la grande tribulation. Puis, dans Apocalypse chapitre 20, versets 4 et verset 5, donc je prends les parties là, Jean parle de la résurrection de ces innombrables martyrs. Il dit au verset 4, « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, donc la bête c'est l'Antichrist, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Cette dernière phrase, c'est la première résurrection, signifie que la première résurrection s'achève. OK? Donc, 1, 2, 3, 4, c'est toutes les résurrections, toutes à la vie, les résurrections, la résurrection à vie s'accomplit avec la quatrième étape de ce quatrième acte de cette résurrection. Les martyrs de la tribulation ressuscités prendront leur place dans le royaume millénaire de Christ. Donc, encore une autre raison pourquoi Jésus va revenir, eh bien, pour ressusciter les martyrs de la tribulation afin qu'ils prennent leur place dans le royaume de Christ. Aussi, Jésus-Christ revient pour délivrer Israël à la fin de la tribulation, c'est-à-dire à la fin de la 70e semaine de Daniel. Et puis, par la suite, il va établir son royaume millénaire. Je lis dans Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Oui, Jésus, fils de David, régnera sur le trône de David. Ce sera un règne glorieux, digne du roi des rois. La prophétie que avait donnée à Marie, l'ange, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 31, donc cette prophétie promet, dans le verset 31, « Et voici, tu deviendras enceinte, de Marie, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, donc son ancêtre. Il régnera sur la maison de Jacob, donc pays d'Israël, peuple d'Israël, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc, pour expliquer ça rapidement, je vous ramène l'image de la dernière fois. Donc, la pierre, donc c'est le Christ, qui a frappé à la fin de la tribulation les orteils de cette image, donc je n'explique pas tout, deviennent une montagne qui remplit toute la terre. Donc, le Christ prendra possession de son royaume à Jérusalem. Il sera un royaume mondial, le royaume de Christ, pour 1000 ans. Et par la suite, le royaume sera transporté au-delà des temps, dans l'état éternel. Un règne éternel, non pas simplement pour 1000 ans, mais pour l'éternité. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 et 26, nous lisons « Car il faut, qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il faut que Jésus règne. C'est la justice même, c'est, disons, la nécessité universelle. Comme il fallait que Jean-Baptiste baptise Jésus, donc pour remplir toute justice, c'est ça que Jésus a dit, il faut que tu me baptises pour que ça remplisse toute justice. Et de même, il faut que Dieu règne sur sa création. Une fois qu'on arrive dans le règne de Dieu, il y aura la noce de l'agneau. Ça commence au début du royaume millénaire. Il y aura des grandes célébrations dans les cieux et sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Donc, je pose la question, quelle sera l'ambiance du millénaire? Donc, je donne quelques pensées très brefs, très rapides. Première chose et principale, Jésus régnera. Après, donc, il faut noter que la nature sera restaurée. Tous les animaux seront dociles. Il y aura la paix, la santé, la prospérité, la justice, etc. Le gouvernement sera parfait. La nouvelle Jérusalem sera présente. On peut aussi demander qui sera présent dans le millénaire. Donc, il y a, globalement, il y a deux groupes. Il y a un troisième groupe, que je veux dire. Donc, premièrement, tous les justifiés ressuscités seront présents, devenus immortels. Dans le corps immortel ressuscité, ils seront présents. Donc, les croyants de l'Église, parce que nous sommes toujours avec le Seigneur et le Seigneur sera là. Les ressuscités de la tribulation, parce que c'était marqué là dans Apocalypse chapitre 20. Les saints de l'Ancien Testament, parce que c'était toutes les promesses qui étaient faites. Par exemple, dans Daniel chapitre 12, verset 13, Dieu dit, il promet à Daniel qu'à la fin des jours, dans le royaume du Christ, tout sera debout, ressuscité, pour ton héritage. Et en parlant de la résurrection dans Job, chapitre 19, verset 26, « Quand ma peau, donc c'est Job qui parle, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. » Là, c'est la résurrection. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Donc, mes yeux verront Dieu et non ceux d'un autre. Donc, dans la résurrection, on est la même personne avec un corps ressuscité, transformé, perfectionné, etc. Donc, premièrement, qui sera présent dans le millénaire? Bah, tous les ressuscités. Et puis, il y aura aussi les croyants mortels seront présents. Alors, on ne va pas parler de ça tout de suite parce qu'on parlera peut-être dans 2 semaines, peut-être. Mais les descendants donc la progéniture de ces croyants, donc je vais dire tout de suite, seront là aussi. Les croyants qui entrent dans le millénaire, toujours vivants, eh bien, eux, ils vont avoir des enfants et qui vont avoir des petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Pendant 1000 ans, il y aura des générations. Donc, il y aura beaucoup de monde croyant et non-croyant dans le millénaire. Mais pour l'instant, on parle du début du millénaire. Donc, le second groupe, c'est les croyants mortels. Eux seront présents. Les croyants encore vivants, donc à bien comprendre, rescapés de la tribulation. Donc, ce sont ceux, Matthieu 24, qui ont persévéré et préservé leur vie jusqu'à la fin de la tribulation. Ce sont, en quelque sorte, donc, les nouveaux Noé. Hein, qui Noé a traversé le déluge et ces gens-là ont traversé la tribulation. Car ces gens peupleront les nations par la procréation. Donc voilà, pourquoi Jésus va-t-il revenir? Donc globalement, il va revenir pour mener à sa fin l'histoire de la création. Pour le non-croyant, le retour de Jésus ne sera pas joyeux. Mon ami, si l'amour de Dieu ne vous attire pas au salut, j'espère que la perspective d'une éternité de souffrance puisse vous motiver à changer votre avis. Pour le peuple d'Israël, le retour de Jésus, bon, sur la croix, il était marqué, roi des Juifs. Hein? Le retour de Jésus, le roi des Juifs, crucifié, ressuscité, son retour verra l'accomplissement de toutes les promesses données à Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. Le Messie Jésus régnera depuis Jérusalem. Israël aura la prééminence parmi toutes les nations pendant 1000 ans. Et pour nous les croyants en Jésus-Christ, Jésus va revenir pour nous amener au ciel avec lui, soit par la résurrection, soit par l'enlèvement. En attendant ce merveilleux jour, eh bien, il y aura des moments heureux, il y aura des moments difficiles. Il y aura des périodes de pleine santé et il y aura des périodes de maladie. Il y aura des temps prospères, il y aura des temps difficiles. Il y aura la vie, il y aura la mort. Mettez au profit des autres vos dons et vos talents. Comme Paul a dit dans Hébreux chapitre 10, versets 23 et 24, je ne sais pas, peut-être j'ai aussi mis le verset 25 là, en tout cas, donc le verset qu'on avait vu pour la mémorisation tout à l'heure, hein, retenons fermement la profession de notre espérance, c'est notre foi en Jésus-Christ. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter, c'est pas pour nous critiquer, attention, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Réciproquement. Ça veut dire, dans les mots plus faciles, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Eh bien, c'est le jour du retour de Jésus dans les airs pour nous amener au ciel. Et puis, je vous laisse avec cette pensée avant de chanter et vous souhaiter une bonne semaine, n'est-ce pas? Jésus a dit dans Jean chapitre 14, un de mes textes préférés, donc, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, c'est Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, voilà, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle espérance, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous donne une bonne semaine et à la semaine prochaine.